Deux thèmes sont au menu de la tribune de la presse de ce jour. Nous commençons par l'arrangement particulier, vous le savez, qui n'a pas été signé lundi 27 mars 2017 comme prévu. Parmi les points de divergence, les acteurs politiques évoquent notamment le mode de désignation du Premier ministre. Après avoir pris acte de la fin de la mission de bons offices de la SENCO mardi dernier, le chef de l'État s'engage à trouver une solution consensuelle pouvant débloquer la situation politique actuelle. Ensuite, nous irons dans la province du Kasaï central où plusieurs témoignages font état des civils tués et blessés par les forces de l'ordre dans la commune de Nganza au cours de l'opération de traque contre les présumés miliciens de Kamuina Nsapu. Et pour en parler, je reçois deux confrères dans ce studio. Joachim Viana, bonsoir confrère.
Bonsoir.
Vous êtes éditeur de La Colombe, un journal paraissant ici à Kinshasa. Rombo Otaba, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au quotidien L'Observateur, journal paraissant également ici à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission. Commençons par voir comment la presse kinoise a traité les sujets que nous abordons aujourd'hui dans cette revue de presse que nous présente Berry Franklin Luchaka. Bonsoir Berry.
Bonsoir Alain et bonsoir à tous. Deux sujets ont marqué la presse écrite cette semaine. L'échec de la signature de l'arrangement particulier pour la mise en application de l'accord de la Saint-Sylvestre et l'insécurité à Kananga. En ce qui est de l'échec de la signature de l'arrangement particulier, les évêques se sont dessaisis de ce dossier, constate Forum des As, qui a titré mercredi « Les évêques s'effacent, le raïs s'annonce ». Les évêques ont demandé au président de la République de s'impliquer personnellement pour atterrir avec ce dialogue qui n'en finit pas, alors que la mission première à signer à ce forum s'avère l'organisation prochaine des élections, vite reléguée à l'arrière-plan au profit des strapontins ministériels. Dans leur parution de jeudi 30 mars, les journaux sont revenus sur le communiqué de la présidence de la République qui parlait de l'adresse du chef de l'État devant les deux chambres réunies en congrès. Les tabloïds se sont interrogés notamment sur ce que le chef de l'État congolais pourra dire aux Congolais pour calmer les tensions. C'est ainsi que la prospérité, par exemple, a invité Joseph Kabila à prendre la mesure de ses vraies responsabilités devant sa conscience et l'histoire, lui rappelant que tous les paramètres du pays sont actuellement au rouge. Ainsi, la consoeur s'est interrogée en ces termes. Que dira-t-il aux Congolais? Le potentiel a semblé répondre à cette question en soutenant dans ses colonnes que l'autorité morale de la majorité présidentielle va faire des propositions en faveur de la dissidence du rassemblement devant le Congrès. Pour s'en convaincre, le tabloïd rapporte que des consultations secrètes sont en cours entre la MP et les dissidents du rassemblement avec l'objectif d'isoler le rassemblement piloté par le tandem Pierre Lumbi, Félix Tshisekedi. Une stratégie que le journal déconseille, estimant qu'elle ne peut apporter la paix au regard des propagations des foyers des tensions dans le pays. C'est une citation que je referme. Et face à l'éventualité de l'embrasement de la situation que redoute le potentiel, la MONUSCO appelle les politiques au consensus pour débloquer la machine, rapporte de son côté Le Phare. Parlons maintenant de la situation sécuritaire à Kananga. Les journaux sont revenus ce vendredi sur la traque des miliciens de Kamuina Nsapu menés par l'armée dans cette ville du Kasaï central. On tue au Grand Kasaï, s'alarme l'Église catholique dans un communiqué publié jeudi, rapporte ce vendredi Le Potentiel. Le journal note que pour les prélats catholiques, ce qui se passe au Kasaï est une tragédie qui appelle à la compassion et à la condamnation. Les prélats catholiques, poursuit le tabloïd, dénoncent, je cite, un complot à grande échelle, fin de citation, et préconise, je cite, une solution politique à la crise socio-sécuritaire et humanitaire qui sévit dans cette province, fin de citation. Pour sa part, André Claudel Lubaya, l'élu de Kananga, a déploré dans une tribune le génocide en cours au Kasaï et demande aux Congolais de s'indigner, rapporte pour sa part Le Phare. Dans cette même tribune, relaye le quotidien, ce député alerte que, je cite, depuis mercredi dans la matinée, les forces armées sans mandat de perquisition font arbitrairement du porte-à-porte dans une brutalité inouïe pour procéder indistinctement aux rafles des jeunes des 10 à 30 ans à Kananga, fin de citation. Et c'est aussi la fin de cette revue de presse à l'Airung.
Merci Berry Franklin Luchaka. Nous revenons avec force détail sur ces deux thèmes tout à l'heure. Mais pour commencer, prenons cette triste nouvelle. RFI est en deuil. Laurent Sadou, une voix que toute l'Afrique connaît, est décédé hier à l'âge de 51 ans. Laurent Sadou était souffrant depuis quelques années. Il avait dû se retirer de RFI il y a de cela un an et demi pour se faire soigner. L'annonce de sa disparition a provoqué un choc aussi à Radio Okapi puisqu'il avait formé certains journalistes de Radio Okapi Mbandaka en 2002. Un commentaire, Joachim Diana. Vous êtes éditeur de La Colombe, un journal paraissant ici à Kinshasa.
Ben, c'est quelqu'un que l'on connaît par sa voix, par sa réputation. On ne peut que adresser nos condoléances les plus émues à sa famille et surtout à RFI et à toute la famille communicationnelle mondiale.
Rombo Taba, vous êtes journaliste au quotidien L'Observateur, journal paraissant ici à Kinshasa, également un commentaire.
Oui, c'est la mort d'un homme, hein, quel qu'il soit, donne toujours de la peine. Et surtout, dans les cas d'espèce, il s'agit d'un confrère, et nous ne pouvons que nous incliner devant sa mémoire. Mais ce qui est regrettable, c'est que pour certains auditeurs qui n'ont pas la chance de suivre Radio Capi ce soir, ils seront peut-être pas informés, parce que vous connaissez l'essor des radios, des RFI dans ces pays, par... C'est inadmissible dans un pays qui se dit démocratique qu'on puisse empêcher à des Congolais de suivre une radio telle que RFI. C'est un crime et je pense que tôt ou tard, ce genre de fait sera poursuivi et les auteurs ne seront pas restés libres.
Merci, il vient de nous rejoindre dans ce studio. Lui, c'est Innocent Kaboukala. Bonsoir, cher confrère.
Bonsoir, Alain.
Vous êtes journaliste indépendant. Quel est votre commentaire par rapport à cette triste nouvelle?
Il est difficile, hein, quand on parle de la mort, de faire beaucoup de commentaires, mais... ce que je note, c'est que pour quelqu'un qui vient d'un média aussi important que RFI, je partage la douleur en fait avec tous les confrères qui restent encore en vie.
Alors, un autre sujet à commenter très rapidement, le Conseil de sécurité des Nations Unies va voter une nouvelle résolution prolongeant le mandat de la MONUSCO ce vendredi. Joachim Diana, pour vous, à quoi pouvons-nous nous attendre?
Ben, les nouvelles qui nous viennent vont un peu dans le sens de nos souhaits, c'est-à-dire prolongation du mandat, d'accord, mais avec début progressif de la réduction des effectifs. On a parlé de 7% d'effectifs qui seront réduits. On pourrait y aller même avec 20% pour que le plus tôt possible la République démocratique du Congo se normalise. Il n'est pas normal que ce pays reste un pays assisté pendant des années parce que cela a de répercussions sur le plan de sa perception, de son image de marque à l'extérieur. Il n'y a pas quelqu'un qui a des millions, des milliards, c'est de vrais investisseurs qui pourraient les amener dans un pays sous perfusion de la communauté internationale avec 20 000 hommes, et c'est ce qui démontre que ce pays n'est pas sûr. Donc il faudra que la MONUSCO progressivement se retire et que la RDC reste un pays normal.
Rombo Taba, comment vous entrevoyez ce nouveau mandat de la MONUSCO?
Oui, moi je pense que, bon, d'abord, le contexte qui a favorisé l'installation de la MONUSCO ici, c'était dans un contexte donné. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé pour que l'ONU puisse envisager la réduction de ses actifs alors que pratiquement le décor est planté pour le chaos dans ce pays? Alors moi je pense qu'il ne faut pas que l'ONU commette la même maladresse que celle commise au Rwanda, où on a laissé les voyous là-bas massacrer des innocents et après verser des larmes de crocodile. Je pense qu'il faut absolument beaucoup réfléchir avant de prendre une telle décision. Sinon, ce serait non-assistance à personne en danger.
Innocent Kaboukala, comment vous entrevoyez ce nouveau mandat?
Moi, je crois que c'est d'abord important de signaler que on a encore besoin au regard des enjeux hein, qui sont encore d'actualité dans notre pays. Donc on a encore besoin de des forces de la MONUSCO ici chez nous. Donc cette réduction, je crois que c'est vrai qu'à 7%, moi je regrette, on aurait dû laisser les choses telles quelles, mais plutôt renforcer, comme ça a été le souhait, pour que cette mission accomplisse la tâche principale ici, à savoir tenir des élections. Et donc, quand mon confrère parle de la normalisation de la RDC, la normalisation de la RDC ne passe pas par la présence de la MONUSCO sur le sol congolais.
Voilà, passons à notre premier thème de ce soir. La CENCO n'attend pas à conduire les bons offices indéfiniment et en appelle à l'implication personnelle et à la responsabilité du chef de l'État pour la mise en œuvre rapide de l'accord de la Saint-Sylvestre. Ces propos ont été tenus lundi dernier, tard dans la nuit à Kinshasa, par Mgr Marcel Outembi à l'occasion de la clôture des négociations directes entre la majorité, l'opposition et la société civile. Une clôture, vous le savez, intervenue sans la signature de l'arrangement particulier à cause du blocage dû au désaccord sur le mode de désignation du Premier ministre et du président du CENSA. Écoutez à ce sujet Mgr Marcel Outembi.
Il y a un temps fixé pour tout, un temps pour commencer et un temps pour achever. L'heure est venue pour nous de rendre compte de la mission de vos offices au terme de ce deuxième round de négociations politiques directes. Les résultats obtenus sont loin de satisfaire les attentes de la population. Nous trouvons principalement devant deux points de blocage. Un, mode de désignation et nomination du Premier ministre. Deux, présidence du CENSA. La CENCO porte à la connaissance de l'opinion l'impasse politique de ces discussions qui traduit le manque de bonne volonté politique et les capacités des acteurs politiques et sociaux de trouver un compromis et l'en appelle à l'implication personnelle et à la responsabilité du chef de l'État en tant que garant de la nation dans la mise en œuvre rapide de l'accord de la Saint-Sylvestre.
Voilà, je le disais, le président de la République a pris acte de la fin de la mission des bons offices de la CENCO et a promis de décanter cette situation le plus vite possible. Joachim Diana, vous êtes éditeur de La Colombe, un journal paraissant ici à Kinshasa. Peut-on parler d'échec concernant ces négociations?
Ah oui, c'est un échec. Il ne faut pas chercher des demi-mots. Et cet échec était attendu dès le moment où les évêques ont commencé à organiser un forum à part entière sans un acte juridique de convocation.
Même si le président de la République lui-même parle de 88% de réussite.
Moi, je ne suis pas là pour faire le porte-parole du président de la République. Je suis journaliste, je suis en train d'analyser les faits. Alors, s'il y a des gens qui viennent ici pour reprendre les paroles de politiciens, je leur laisserai le temps. Et je dis, dès le moment où les évêques ont commencé à organiser ce que d'aucuns, même certains médias, ont appelé deuxième dialogue. Un deuxième dialogue convoqué sur quel bas, quel était l'objet de ce dialogue. Il était convoqué, parce que lorsqu'on convoque un forum comme ça, on lui destine ses objectifs. Quels étaient ses objectifs de ce dialogue et ses objectifs ont été fixés dans quel acte juridique? Il n'y en avait pas. Et pourtant, il manque pas d'exemple dans la situation congolaise. Quand les Congolais se retrouvent à San City, beaucoup, il faut le rappeler à certaines mémoires, c'était exactement la même chose en dernière minute, au moment de partage et de fonctions, tout ça. Ils ne se sont pas mis d'accord. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On est rentré. La composante gouvernement et le MLC ont signé un accord particulier qui était signé à l'hôtel Cascade, qu'on a estimé que ce n'était pas inclusif. Et l'UDPS et le RCD ont créé l'ASD, Alliance pour la sauvegarde du dialogue. Et on changera de médiateur, on destinera à Mustapha Niasse qui a remis le groupe. Cette fois, on a dit maintenant un dialogue à format réduit. On a pris cinq personnes. C'était encore une trentaine de personnes qui sont rentrées à Saint-City travailler. Mais après avoir trouvé un accord, ils ont rappelé tout le monde. Les gens ont payé des billets ici pour se déplacer, aller à Saint-Cyr pour entendre l'accord que le groupe qui avait travaillé a trouvé. Mais ici, les évêques trouvent un accord, ils estiment que c'était le dialogue plein avec tout cela, et il faut l'appliquer. Et
on ignore carrément ceux qui avaient réfléchi, même si dans cet accord de 31 décembre, on a repris beaucoup de choses, ce qui devrait faciliter l'adhésion autour de même accord.
Mais les évêques ont estimé que la classe politique n'a pas pu se surpasser, ni la majorité, ni le rassemblement d'ailleurs.
La facilitation elle-même ne s'est pas surpassée. Exactement.
Comment ça?
Si la facilitation n'avait pas autre chose. Mais est-ce que vous estimez une facilitation qui menace, qui dit j'aurai un plan B? Le plan B viendrait de quoi? Ça suivrait à quel plan? Le plan A, c'était son plan. Il dit, voici mon plan A. Si ce plan A échoue, voici, je vais sortir le plan B. C'est que les évêques avaient un plan en dehors de la classe politique.
Mais
donc, ce qui n'est pas normal, c'est pourquoi je dis que la facilitation elle-même ne s'est pas dépassée. Si la facilitation avait... J'ai dit cela, si la facilitation avait, après avoir trouvé l'accord, ramener tout le monde, voici l'accord qui a été trouvé. Et tout le monde la signe. Je vais donner un exemple. Il y a par exemple l'honorable Mozito, qui a participé au dialogue de la cité de Luya, qui en fait de compte n'a pas signé. Il dit, je ne signe pas parce que cet accord n'est pas inclusif. Et maintenant, quand on trouve l'accord inclusif, il n'a pas le devoir historique de signer. Il n'a pas la possibilité. Or, si on avait ramené, il serait le premier à le signer. Voilà l'inclusivité que je cherchais là.
Mais qu'est-ce que vous répondez à ces analystes qui pensent que c'est à cause de l'intransigeance de la majorité présidentielle que cet accord n'a pas abouti?
Mais qui parle de l'intransigeance, c'est où? Lorsque l'accord lui-même dit, dans son point 3.3.4, que les modalités de désignation seront discutées dans l'arrangement particulier. Et lorsque le point 3 lui-même dit que le Premier ministre sera présenté par l'opposition barre l'Assemblée, mais sera nommé par le Président de la République, conformément à l'article 78. Est-ce que les gens ont analysé ce que ça voulait dire, être nommé conformément à l'article 78? J'entends les gens dire, je ne sais pas quelle façon, on dit le. Mais c'est vrai, on peut dire aujourd'hui, dans la presse, il y aura un lauréat. Le lauréat sera présenté par la radio Capi. Et ça veut dire qu'il n'y aura même pas concours. On n'aura même pas à choisir.
Voilà. Rombo Taba, qu'est-ce que vous répondez à cette analyse de Joachim Viana?
D'abord, commencer par s'attaquer aux évêques. Est-ce que les évêques, d'abord, ce sont des princes de l'Église? Ils ont beaucoup à faire dans leur diocèse. Ils n'ont jamais été demandeurs de médiation ou quoi. C'est le président Kabila lui-même qui a sollicité que les évêques viennent faire la médiation. Donc les évêques ne se sont jamais adressés au président de la République pour dire que voilà, à la cité de Luya, on n'a pas pu avoir un accord inclusif, nous sommes prêts. C'est un appel, et en tant que prophète, ils ont accepté de jouer ce rôle-là. Et quand on dit qu'on a réalisé 98% de positifs dans un accord, sauf les 2% qui posent problème, ce sont d'ailleurs les deux points fondamentaux de l'accord. Et là, en quoi les évêques ont tort pour que certaines personnes mal intentionnées puissent s'attaquer?
Et donc pour vous, il ne s'agit pas d'un échec?
Non, ce n'est pas un échec, il y a un problème de mauvaise foi.
De la part de qui?
De la part des acteurs politiques. Et là, je crois que Vital Kamerhe a eu le courage de manifester sa déception vis-à-vis de la classe politique. Il a dit que les acteurs politiques congolais ont été incapables. Et je ne sais pas si vous avez lu la dernière déclaration du département d'État américain qui dit que le gouvernement congolais, c'est-à-dire la majorité présidentielle et les rassemblements, ont été incapables. Quand on taxe les gens d'incapables, je pense que c'est une honte pour cette nation ici. Donc on ne peut pas venir ici soutenir quoi que ce soit pour dire que les effets qu'on fait, c'est. Donc c'est une honte. Et je crois qu'aujourd'hui, pour ne pas divaguer, nous sommes devant une impasse. Il faut trouver une solution à cette impasse-là. Nous ne devons pas divaguer pour dire ceci. Nous avons un garant de la nation. Et aujourd'hui, c'est à lui à qui revient la responsabilité de faire décanter la situation. Et c'est devant, face à des problèmes de cette ampleur constant, si réellement nous avons des responsables, nous avons un garant de la nation responsable.
Alors, à ce titre, parce que vous parlez d'un garant de la nation responsable, la prospérité a titré, avant son passage au Congrès, RDC, Kabila consulte de nouveau la classe politique. Qu'est-ce que vous répondez à certains observateurs qui pensent que le président de la République aurait taclé la SENCO pour que lui sorte grandi de cette affaire?
Oui, mais justement, quand moi je dis des responsabilités, c'est ça. Ça, c'est de la diversion. Combien de fois il y aura des consultations? Il y a eu des concertations ici avec je ne sais pas combien, 600 résolutions. Et si on fait les bilans, à peine 1% de ces résolutions, de ces consultations.
Là, vous faites allusion aux consultations.
Aux consultations.
Concertation nationale.
Oui, je fais allusion à ça. Et on fait encore revenir sur la consultation. Et quel est ce pays qui ne fait que des consultations, des dialogues intercongolais, de si. Allez, et pourtant, si vous lisez la constitution actuelle, elle a été conçue, rédigée à partir de toutes ces expériences du passé. On ne pouvait pas s'imaginer qu'après les élections de 2006, de 2011, on puisse encore revenir en arrière pour déconcilier un bilan de politiciens. C'est pas normal, cher confrère.
Innocent Kaboukala, vous êtes journaliste indépendant. Vous avez suivi Joachim Diana, qui pense que la SENCO n'a pas pu également se dépasser, à l'instar des acteurs politiques. Rombo Taba pense qu'il ne faudrait pas lancer cette patate chaude en direction de la SENCO, que c'est plutôt au niveau du chef de l'État. Comment vous analysez cette situation?
D'abord, il faut préciser une chose, c'est que la SENCO n'a pas été demandée à pouvoir offrir ses bons offices. C'était une demande expresse du chef de l'État et en tant que tel, faisant partie lui-même des acteurs politiques majeurs dans notre pays. Et il a été conscient de la crise que continue de traverser d'ailleurs notre pays. C'est ainsi qu'il a estimé qu'il était important d'aller aux négociations pour pouvoir trouver un compromis. Et parmi les personnes à qui il s'est adressé pour pouvoir tenter de trouver cette solution, c'est notamment la SENCO. Je rappelle que déjà lors du premier dialogue du 18 octobre à la Cité de l'Union africaine, la SENCO était là, mais la SENCO n'avait pas signé pour des raisons que tous nous connaissons. Et ces raisons, à mon avis, ont intéressé le président de la République, parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, le camp de la majorité a toujours et continue toujours de chercher par quels moyens demeurer au pouvoir, éviter les élections pour continuer à rester au pouvoir. Et c'est ainsi que lorsque la SENCO a refusé le principe de non-révision de la Constitution du troisième mandat, qui était déjà presque, disons, accordé au niveau de la cité des négociations de la cité de l'Union africaine, alors le président de la République a pensé qu'il était possible de refaire les choses pour voir dans quelle mesure on peut trouver certains autres avantages. Vous vous souvenez des exigences d'une vidéo qui jusque-là n'est pas encore certifiée, mais quoi qu'il arrive, on a quand même suivi à travers les réseaux sociaux les sorties médiatiques de Nima Dassemi qui lui parlait de la possibilité d'offrir au président de la République 3 ans supplémentaires. C'était une manière pour lui de négocier son poste, mais le plus important là-bas, c'était que le président de la République, comme au niveau de la majorité, on n'était pas encore disponible pour pouvoir quitter le pouvoir. Raison pour laquelle, d'ailleurs, déjà l'année dernière, il n'y a pas eu organisation des élections. Parce que en 2006, lorsqu'on a terminé le premier mandat électoral, en 2011, le président de la République s'est employé et nous avons eu des élections qui ont été organisées. Et comme il savait qu'il avait la possibilité de le faire, le président de la République a possibilisé. Et aujourd'hui, ça n'a pas été le cas et il fallait trouver d'autres voies pour pouvoir continuer à rester au pouvoir. Donc, je ne peux pas imaginer un seul instant que ce soit réellement la faute de la SENCO, mais c'est plutôt les acteurs politiques. Ici, il n'y a que la majorité présidentielle qui s'est illustrée par une mauvaise foi. Parce que lorsque cette majorité, regardez à quelques heures de la fin de ce dialogue, la majorité a tenu un point de presse et dans ce point de presse, ils ont révélé leur intention de ne pas possibiliser, de ne pas donner l'opportunité pour qu'on aboutisse avec l'arrangement particulier. Alors, et c'est ainsi que le chef de l'État les a pris de court pour pouvoir, dans sa méthode, de pouvoir calmer les gens qui commençaient déjà à prendre d'autres tournures pour parler d'une intervention que nous attendons tous et on espère peut-être qu'il pourra cette fois-là être du bon sens.
Alors, Joachim Diana, il y a le potentiel de ce vendredi qui a notamment titré sur ce sujet la mission de bons offices de la SENCO. Que faut-il en retenir selon vous?
Bon, écoutez, je ne sais pas de quoi parlent nos amis. Vraiment, je suis étonné. Oh non, la SENCO n'était pas demandeur. Et Denko Diou qu'on a traité dans la bouche. Vous avez entendu que Denko Diou a écrit la lettre de demande pour être facilitateur.
Il a été nommé.
Mais quand vous êtes nos facilitateurs, on vous désigne. Bon, alors, le dialogue n'a pas été nommé aucun facilitateur. Et pourquoi? En quoi il y a un dialogue? Alors, et sur ce point-là, j'aurais voulu qu'on me dépendue là-dessus. Je dis ceci. Un facilitateur, quand on vous fait confiance, on estime que vous pouvez rendre compte. De la même façon qu'on avait choisi les facilitateurs. qui n'avait pas demandé. Le problème est là. Les évêques n'ont pas demandé. Mais monsieur, moi, je n'ai pas cherché à me faire
qu'est-ce qu'on peut retenir qu'est-ce qu'on peut retenir selon vous cette mission de bons officiers?
C'est pourquoi il faut, vous savez, les auditeurs sont des hommes à respecter. Ils ne doivent pas entendre des histoires. Que l'accord, l'accord peut empêcher un président de la République à se représenter, à avoir un troisième mandat, lorsque ce même président de la République ne peut pas respecter la Constitution. S'il est décidé à ne pas respecter la Constitution, il respecterait un accord. Mais tout ça, on raconte n'importe quoi. Sortons de là, ça, sur le débat du parlementaire, debout, pas ici. Donc, j'ai dit ceci. Cet accord, je dis, j'ai donné un argument. Si les amis ont à le contrer, c'est pour dire, la CENCO a fait du travail. Et le gros du travail qu'on a fait là, de 80%, là, c'était quoi? Le travail déjà trouvé, les élections, parce que c'était ça l'essentiel. Mais lorsqu'on arrive maintenant au niveau du partage des responsabilités, l'arrangement particulier, comment désigner tout ça, c'est là où j'ai dit, il y a l'accord qui dit à son point 3. À son point 3, il demande à ce que le Premier ministre qui vienne du rassemblement et qu'il soit nommé par le président de la République conforme à l'article 78 de la Constitution. J'ai amené la Constitution, ici, il faut qu'on dise, on va dire. Alors, maintenant, on vient à ce moment-là, on dit, même si c'est déjà selon la Constitution, mais dans l'arrangement particulier, on va se mettre d'accord. C'était la même chose à la cité de l'UA. C'est pourquoi Kamer qui était aussi candidat, il y a beaucoup qui étaient candidats, mais le président nommant, conforme à l'article 78, a nommé Badibanga, les autres se sont inclinés. Mais on arrive avec le groupe de rassemblement, on nous ramène aux mêmes histoires de 1990, il n'y a que Tshisekedi qui doit être Premier ministre. Il n'y a que lui, il n'y a que lui.
Et donc la faute est au rassemblement.
La conséquence, nous sommes en train de parler, moi je parle de faits. Vous allez voir à travers les faits, je dis qui a tort, qui a raison. Le point 3 demande qu'on nomme conforme à la Constitution, à l'article 78, c'est-à-dire quoi, le président de la République lui-même désigne. Et qui nomme, il n'atterrine pas une candidature, il nomme quelqu'un. Alors, si c'est là, qui a refusé? Mais c'est celui qui a refusé, c'est le rassemblement.
Alors, Joachim Diana, la tempête des tropiques a titré le rassemblement en colère, les manifestations décrétées commencent lundi, vous le savez, à travers une conférence de presse, l'UDPS, le rassemblement, ont décrété une série de manifestations et l'avenir titre pour sa part, la MP dénonce le projet cynique du rassemblement. Un commentaire.
Vous savez, le commentaire, c'est celui-ci, il est très facile, je dis. J'ai entendu, non, nous ne reconnaissons pas le président de la République. C'est quoi? J'étais chez un ami. Hein. Son enfant lui demande, papa, achetez-moi un pain. Le papa lui dit, mais tu viens de manger, si tu achètes encore un peu, mais d'abord va te laver. Et qu'est-ce que vous savez ce que l'enfant répond? Vous appelez sous ce papa Nangate. Parce que tu ne m'as pas acheté
le pain. Mon père.
Je ne te reconnais plus comme mon père. C'est exactement ce que fait le... Voilà. Et cela s'appelle au bas mot chantage. Et c'est indigne pour une classe politique qui se veut une alternative.
Rombo Taba, journaliste au quotidien L'Observateur, paraissant ici à Kinshasa, la référence plus titre, la MP invite le rassemblement à un sursaut salutaire de patriotisme. Il y a des manifestations que prévoit le rassemblement. La MP pense que c'est un chantage, comme le dit Joachim Dara.
Écoutez, moi je pense qu'il y a un adage qui dit que l'homme se découvre en se mesurant à l'obstacle. Aujourd'hui, nous pouvons épiloguer sur tout ce que Diane est en train de raconter là-bas. Encore qu'il y a des gens aujourd'hui, il est confirmé, qui ont vendu leur âme et leur conscience à cause de l'argent pour dire n'importe quoi. Aujourd'hui, moi, je pense que tout cela ne sert à rien. Ce débat-là risque de faire sortir du trésor public beaucoup d'argent pour financer les déclarations des uns des autres. Aujourd'hui, il y a une impasse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que les Congolais sont intelligents pour pouvoir sortir de cette impasse?
Le rassemblement a proposé une série de manifestations.
Non, là aussi, moi, je trouve que c'est de la récréation. Vous savez, aujourd'hui, nous nous trouvons exactement comme la pré-conférence nationale souveraine. Où Mobutu Sese Seko Kanyati avait tous les regards vers la 10e rue Alimété, croyant que les dangers viendraient de là, mais subitement, nous apprendrons un bon matin ici que, voilà, à partir de l'Emera, c'est et les Kadogo, oh non, que ça ne tombera pas alors
une troisième voie.
Oui, et puis, en plein 16 mai, où, il a fui ici, tout ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous devons éviter ça et le peuple congolais va aller aux élections. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Et effectivement, les confrères, ils ont ça à raison. Il y a des gens qui ont fait tout
Parce que c'est atypique la situation que nous connaissons aujourd'hui en RDC. Jamais, bien là, qu'ils me disent quel est ce pays-là. Surtout ici, au nord du Zambèze et au sud du Sahara, le ventre mou de la planète. Quel est ce pays-là où, le moment fini, on n'a pas organisé des élections. Le pays n'a pas été en guerre, on n'a pas connu une calamité naturelle, mais des manœuvres dilatoires, Matata n'a pas voulu financer les élections, et on nous dit que non, tout ça. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pourquoi je pense que les hommes et les gens doivent réfléchir sur la manière aujourd'hui d'aller aux élections en décembre 2017. Et c'est vrai que...
Et
les
cela
autres,
passe par quoi, selon
justement,
vous?
Si aujourd'hui, il est établi que les garants de la nation que nous avons n'est pas sincère, ne veut pas faire débloquer la situation, il faut qu'on nomme un gouvernement des secrétaires généraux, des technocrates, les hauts fonctionnaires de l'État, pour il n'y a que 6 ou 7 mois qu'ils dirigent, comme ça les politiciens sont mis hors d'état de nuire, parce que les politiciens sont en train de nuire à la population. Et ces gens-là vont tout simplement stabiliser quelque peu la situation, permettre
en
à
attendant
la CENI,
l'organisation des élections.
Oui, ou alors, dans ces cas-là, l'ONU prenne une résolution qui rende cet accord impossible
pour
conduire les Congolais aux élections. Mais nous ne pouvons pas continuer à subir les dictats de gens qui ont perdu toute légitimité aujourd'hui.
Merci. Innocent
c'est
Kabuka,
pas possible.
Innocent Kabukala, le rassemblement a annoncé des manifestations et Forum des As à ce sujet titre la MP accuse le rassemblement pour la famille politique du chef de l'État. Le regroupement dirigé par Félix Tshisekedi veut prendre le pouvoir par la pression de la rue.
Mais je crois que il faut d'abord regarder les choses. C'est de bonne guerre que les partis politiques, regroupements politiques, puissent prendre des positions par rapport à la situation politique qu'il y a ici. Parce que ces animateurs, ils sont à la tête de ces groupes, parce qu'il y a aussi des adhérents. Et parmi les adhérents, c'est notamment la population. Mais le plus important qu'il faut retenir, c'est que la population aujourd'hui est déçue par ce qui s'est passé dans notre pays, notamment l'attitude affichée par la majorité présidentielle. Parce que pourquoi on a été à ce dialogue? C'est pour aller à l'essentiel. C'était quoi? Les élections. Les élections sont l'aspiration profonde de notre population. Et aujourd'hui, quand il y a une incertitude par rapport à ces élections, ce n'est que normal que la population puisse hausser du ton. Évidemment, à travers des partis politiques dans lesquels cette population se retrouve. C'est le cas du Rassemblement, c'est le cas de l'UDPS et d'autres partis qui constituent ce groupement. Alors, venons-en, c'est que Diana, parce qu'il a pensé qu'on a éludé son argument qu'on ne peut jamais on ne peut soutenir ici, lorsqu'il interprète l'article 78. Mais on n'a pas besoin forcément d'être un juriste pour pouvoir comprendre que dans l'écrit, vous avez ce qu'on appelle la forme, vous avez le fond. Vous avez, dans la forme, en ce qui concerne l'article 78, il n'est pas dit que lorsque le président de la République nommerait le premier ministre qui serait issu du rassemblement, celui-ci devait d'abord répondre à un préalable, c'est-à-dire être issu parmi les 3 qu'on proposait au président de la République. Mais il confond les choses. Des articles précédents expliquent bien la chose. Lorsque la situation se passe normalement, pour qu'on en arrive à nommer un premier ministre, qu'est-ce qui se passe? Soit le président choisit de passer par un informateur qui va identifier une majorité à l'Assemblée nationale, et à l'issue de cet exercice, on a nommé un Premier ministre, et lequel devra venir ici pour pouvoir répondre à un certain nombre d'exigences. Mais ici, il s'agit d'un accord politique. Pourquoi? Parce qu'il y a une crise, il faut résoudre. Alors, l'accord politique voudrait que, d'abord, on puisse trouver un Premier ministre qui est issu du Rassemblement, mais dans l'entretemps, pour rester dans la forme, parce qu'on n'a pas éludé complètement la constitution de notre pays, parce qu'on l'a gardée. L'idée, sachez très bien que, d'accord, on a garanti le fait qu'on ne peut pas toucher à la constitution, qu'on ne peut pas la réviser, et donc, il faut utiliser les aspects de la constitution qui peuvent permettre effectivement la mise en œuvre de cet accord. C'est ce qui explique la forme lorsqu'on parle de l'article 78 en ce qui concerne la nomination. Ça n'a rien à voir avec le fond alors, de la question qu'il faut creuser.
Quelle
donc,
est la solution?
ne peut pas
qu'est-ce qu'il faut pour décanter cette situation?
Ça, c'est des histoires. Pardon?
Qu'est-ce qu'il faut pour décanter cette crise, Innocent Kabukala?
La crise aujourd'hui passe par la bonne foi. Et la bonne foi, nous espérons, parce que le président de la République, comme il a pris les choses à main,
on rappelle d'abord que lui-même a été légitimé notamment par cet accord. Vous avez suivi Marcel Outembi lorsqu'il était à New York, il a rappelé toutes les institutions sont arrivées, sont tombées dans l'illégitimité, et donc l'accord reste la seule source, parce que ici il s'agit d'une question politique et le problème a été résolu politiquement. Merci. Et donc le président de la République ne peut que s'aligner sur l'angle politique pour arriver à retrouver cette cohésion et de manière à ce que le pays puisse être libéré.
Merci. Nous allons prendre notre deuxième et dernier thème de ce soir. À Kananga, la peur a gagné plusieurs habitants, surtout ceux de la commune de Nganza. Pour sauver leur vie, plusieurs d'entre eux sont obligés de fuir leur domicile. Radio Okapi reçoit depuis mercredi dernier des témoignages alarmants qui parlent des blessés et des morts enregistrés dans certaines familles après le passage des militaires. Nous vous proposons celui-ci qui nous est parvenu récemment.
Je confirme qu'on a tué des personnes en Gaza et nous avons fui. Moi, j'ai perdu ma mère, les deux femmes de mon grand frère avec un bébé et ma petite sœur. On les a tués hier par les militaires vers 9h. Pour le moment, nous sommes en train de fuir vers le centre-ville et nous ne savons pas là où on va rester. Comme on nous a signalé bien avant, nous les hommes, nous avons eu le temps de fuir alors que les femmes ont été tuées. Ceux qui sont restés en ville, elles sont trois seulement et on ne sait pas là où ils se trouvent. Nous sommes à leur recherche.
Pas de perte en vie humaine, pas de bavure de la part des forces de l'ordre qui traquent les miliciens de Kamuina Nsapu. C'est le bilan des opérations que dresse le porte-parole des FRDC, secteur opérationnel du Grand Kasaï. Le lieutenant Anthony Mwalushai reconnaît que la police débordée par les attaques des miliciens avait fait appel à un peloton des FRDC pour émettre de l'ordre. Le porte-parole des FRDC dans le Grand Kasaï dresse également le bilan des opérations de la traque. Il est joint au téléphone par Daniel Tambinzoni.
Nous avons eu quand même récupéré 8 armes de fabrication locale, calibre 12. Nous avons neutralisé plus de dizaines de miliciens. Il n'y a pas eu de blessés graves, mais il y a des blessés légers. Jusque-là, il n'y a pas eu de pertes en vie humaine. J'ai suivi beaucoup de gens qui appellent de Kinshasa et de partout ailleurs pour donner des mauvaises informations qu'il y a eu des morts. Mais en tant que porte-parole, je peux vous confirmer.
Selon les témoignages qui nous parviennent à Radio Capi, par exemple, ce matin, il y a des gens qui appellent au Kananga pour dire que l'opération de porte à porte se poursuit, l'opération qui est menée par les forces de l'ordre, et lorsque les forces de l'ordre rentrent dans une maison, ils laissent des dégâts derrière.
Non, je ne confirme pas cette information. Nous avons une armée bien formée, une armée professionnelle. Ils sont en train de chercher les miliciens. On les reconnaît parce qu'ils portent des banderoles rouges. Ils ont des fétiches au niveau de ventre. Bon, ils sont bien identifiés. On ne peut pas laisser les miliciens s'attaquer à la population civile qui n'est pas armée.
Donc, pour vous, il n'y a pas eu de bavure de la part des forces de l'ordre?
Il n'y a rien comme bavure, monsieur.
Voilà, Rombo Taba, vous êtes journaliste au quotidien Observateur, journal paraissant à Kinshasa. La réalisation me signale qu'il nous reste moins de 10 minutes pour cette deuxième partie, et donc nous allons être très brefs pour atterrir en douceur. Pas mort, des morts, il n'y en a pas. Comment vous analysez cette situation du Kasaï central?
Non, de toutes les façons, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les porte-parole des FARDC disent à la place publique qu'il y a des bavures, ça c'est exclu. De toutes les façons, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Moi je dis que la guerre, c'est une très mauvaise chose. Et aujourd'hui, toutes ces manifestations-là, au Katanga, au Kasaï central, chez Némoine Antemi, prouvent qu'il y a une fracture totale. Fracture totale entre l'autorité et la base. Donc le pays n'est pas gouverné. Et nous devons tout faire pour que les choses se remettent en place, qu'il y ait un gouvernement responsable. Là, ça prouve que le pays n'est pas gouverné. Nous n'avons pas un gouvernement responsable. Et c'est là que ça se manifeste. D'ailleurs, nous avons appris comment il y a eu ébullition lorsque Sami Badibanga voulait aller à Kananga. Donc ça prouve qu'il y a une fracture totale aujourd'hui entre les autorités qui dirigent les pays et les souverains primaires. Donc il y a vite à faire pour que la réconciliation, la vraie réconciliation, puisse être rétablie pour que nous puissions nous atteler aux tâches de développement. Sinon, nous allons tourner à rond.
Joachim Diana, éditeur de La Colombe, un journal paraissant ici à Kinshasa. Comment vous comprenez cette situation? Il y a des témoignages faisant état des morts, mais les officiels disent qu'il n'y en a pas eu.
Vous savez, quand vous réfléchissez, il faut être sur un boulevard, aller et tout. Quand vous êtes en sens unique, vous ne pouvez pas croire que le porte-parole de l'armée dise la vérité. Mais vous pouvez croire que ce petit peu le Kamwinansapou là qu'on a interrogé, lui, est divinement saint, il peut dire la vérité. C'est regrettable pour les intellectuels lorsque nous faisons des raisonnements comme ça. Je dis ceci. Supposons même qu'on trouvait des morts parmi des femmes et des hommes morts dans la rue après l'opération militaire. Les Kamwinansapou sont qui? Ils ont quel uniforme pour qu'on les reconnaisse à travers leur uniforme? À part les fétiches et autres.
C'est pourquoi ils vont faire du porte à porte.
J'ai vu un reportage qui sera bientôt peut-être diffusé, mais qui circule déjà sur les réseaux sociaux. Même des enfants en train de décapiter les policiers, les 39 policiers là. Comment on les a tués? Un policier, il y en a un qui a caca dans tous les habits, on leur arrache le bout. Des enfants. Vous voyez un enfant de 10 ans, 15 ans en train de piquer sur un policier là. Et si ce policier avait tiré en face, cet enfant-là tombait, on dirait, on a tué les enfants.
Alors, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, quelle est la solution d'après vous?
Moi, je pense qu'il faut que les gens soient sincères et honnêtes. Nous sommes dans une démocratie balbutiante, déserte encore, mais il faut pour l'asseoir. Ce n'est pas à rentrer dans l'ethnisme. Toutes les fois qu'il y a des problèmes politiques ici, il y a agitation au Kasaï qui, généralement, était calme. Quand il y a eu la vérité des urnes ici, on a eu Johnny Chibango là-bas, je ne sais pas. Et aujourd'hui, voilà un problème. Kamwinansapou, là, beaucoup qui ne savent pas, c'est un groupement. Ce n'est même pas un territoire. Dans un territoire, il y a plusieurs groupements. Même dans un secteur, il y a plusieurs groupements. L'affaire de ce groupement est devenue l'affaire de tous les Kasaï.
Alors, quelle est la solution?
Mais la solution, c'est que les politiciens reviennent sur le terrain politique moderne. Et pas avec. Là, vous allez. Qu'est-ce qui va arriver? La population continue là-bas, les gens seront instabilisés. Pendant ce temps ici, se fait l'enrôlement. Le Kasaï va être mal représenté parce que beaucoup de gens n'iront pas s'enrôler. Ce n'est pas normal.
Innocent Kaboukala, journaliste indépendant, quelle est la solution pour vous par rapport à cette situation?
Nous l'avons dit dans ce même studio la semaine dernière. La solution, c'est d'abord il faut reconnaître une chose, la mauvaise gestion de cette situation. Des ministres précédents. Hein. Vous avez suivi pas une parcelle sans PPRD et tout ça. Et ce sont ces messieurs qui nous ont conduits à cette situation. Et aujourd'hui, même si on ne le dit pas, M. Diana le sait très bien que dans les milieux qu'il fréquente, ça se dit déjà que c'est lui, on l'indexe, en fait. Il nous a conduits. Et donc, la solution à ce problème reste les mêmes problèmes que nous avons à la République démocratique du Congo. C'est quoi le problème? Ça se résume en trois points, tout simplement. D'abord, c'est la réclamation de l'état des droits qu'il faut comprendre. Et nous avons la démocratie dont on a besoin. Et enfin, nous avons l'alternance. Ce sont des vraies réponses à ce problème. Et tant qu'à Kinshasa, on va croire qu'on peut tout faire sans tenir compte des vrais problèmes de la population, eh bien, vous aurez des situations comme celles que nous sommes en train de regretter aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça c'est une chose qui n'est arrivée qu'après. Déjà, il y avait le bout du Congo, il y avait la situation éternelle de l'Est pour laquelle on ne trouve toujours pas de solution, et même si on veut encore s'éterniser au pouvoir. Donc, en guise de conclusion, je dis que les politiciens, notamment ceux de la majorité qui m'entendent ce soir, ont besoin de libérer ce pays. Ils doivent arrêter de penser que ce pays est une propriété privée de la majorité présidentielle.
Merci. Joachim Diana, un mot en guise de conclusion.
Oui, en guise de conclusion, je voudrais. Vous savez qu'une société sans journalistes qui sont des éclairés, des journalistes qui réfléchissent comme tu veux. Alors, c'est impossible. La majorité doit libérer ce pays à quoi? Nous sommes dans une. Il y a eu élection. J'entends ici, il faut l'alternance. Mais en 2006, si Jean-Pierre Bemba avait gagné, ça allait être quoi? Ce n'est pas l'alternance. Lorsque Tshisekedi avait gagné. Merci. En 2011, ça serait quoi l'alternance? L'alternance, c'est un nouveau mot.
Merci. Rombo, tabou.
Tout ce que les Congolais veulent aujourd'hui, à partir de ce soir, c'est que on nous garantisse qu'en décembre, nous allons organiser des élections. Parce que si en décembre, il n'y a pas d'élection, je vous dis que... Oui, c'est ça votre souhait. Vous ne voulez pas les élections. Mais vous serez contraire. Vous serez contraire d'organiser des élections.
Merci, cher confrère.
Vous ne pouvez pas prendre en otage tout un peuple.
Merci, cher.
Alors que vous avez démontré votre incompétence. Regardez la ville comment elle s'est déroulée.
Merci, cher confrère. Cette émission est terminée. Réalisation Berry Franklin Luchaka, mise en onde Héritier Sidiakala, supervision Pelé Kipela Mondo, présentation et coordination Alain Rungmouchige. Bon week-end à tous.